ce nouveau rapport qui s'intitule Les technologies dans l'éducation, qui est aux commandes, traite de cette question de l'utilisation des technologies pour réaliser l'objectif 4 de développement durable sur l'éducation. Une question qui s'est posée dès 2015, mais a aussi été exacerbée par la pandémie de COVID-19. On voit que la technologie apparaît dans 6 des 10 cibles du quatrième objectif. Et l'agenda ODD reconnaît en particulier que les technologies peuvent affecter l'éducation par plusieurs canaux distincts, en tant qu'intrant, en tant que moyen d'enseignement, en tant que compétence, en tant qu'outil de planification ou en contribuant au contexte social et culturel. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que le rôle de la technologie est souvent l'objet de divisions et ces divisions s'accentuent également à mesure que la technologie évolue à un rythme effréné. Et donc le rapport explore ces débats, examine les défis de l'éducation auxquels une utilisation appropriée de la technologie peut apporter des solutions, donc en termes d'accès, d'équité, d'inclusion, tout en reconnaissant que de nombreuses solutions proposées peuvent également être préjudiciables. Et on met en valeur trois conditions globales qui devraient être remplies à minima pour que toute technologie utilisée dans l'éducation atteigne son plein potentiel. Et ces trois conditions sont un accès à la technologie, une utilisation encadrée de la technologie, donc par de la réglementation, par une intégration dans les processus pédagogiques qui est très, très importante, et enfin la préparation des enseignants.
Alors, vous avez mentionné la COVID-19, l'apprentissage en ligne. Donc, de l'apprentissage en ligne au chat GPT, sommes-nous à un moment charnière quant à la technologie dans l'éducation?
On va dire oui et non. Dans un certain sens, c'est important de prendre en compte la technologie parce que elle peut améliorer et aider à atteindre des populations qui ont été exclues des systèmes éducatifs de manière longue ou de manière durable du fait de difficultés à les atteindre parce que les populations étaient dans des endroits reculés. Mais on discute aussi le fait que, de manière générale, l'intelligence artificielle, donc ChatGPT et les autres outils qui sont développés sur la base de l'intelligence artificielle, ne devraient pas changer fondamentalement l'éducation et que ça ne nécessitera pas forcément de nouvelles compétences majeures que nous ne connaîtrions pas déjà. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle peut aggraver les risques qui existent déjà. Si vous prenez par exemple le risque accru de désinformation, beaucoup de gens pensent que nous devons changer notre façon d'apprendre pour renforcer nos défenses. Mais cette question du raisonnement critique, c'est une question qui se posait avant l'avènement des fake news ou de ChatGPT par exemple. Mais l'importance d'acquérir un raisonnement critique n'est que renforcée du fait que l'intelligence artificielle et ChatGPT amènent à une diffusion bien plus importante de ces désinformations. Dans notre rapport, par contre, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des preuves basées sur les données PISA qui démontrent que ceux qui ont de meilleures compétences en lecture ont aussi une meilleure capacité à éviter de se faire duper par la désinformation. En fait, ça signifie que revenir aux bases de la lecture, des mathématiques et des compétences socio-émotionnelles est extrêmement important, reste extrêmement important pour aider à préparer les élèves pour l'avenir. Le cœur de ce que l'éducation doit offrir n'a pas besoin de changer. Le monde peut et va changer, mais il a toujours besoin d'apprentissages fondamentaux, ce que nous avons encore du mal à dispenser parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, un enfant sur cinq n'est pas scolarisé et 3 enfants sur 10 parmi ceux qui sont scolarisés maîtrisent les bases en lecture.
Alors, à qui s'adresse le rapport?
Le rapport s'adresse à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, que ce soit au gouvernement pour les sensibiliser à la nécessité de mettre en place des cadres pour une utilisation appropriée et encadrée des technologies, que ce soit aux parents pour les mettre aussi en garde sur la surexposition de leurs enfants aux différentes technologies, par exemple l'utilisation de leur téléphone à l'école. On sait par exemple qu'un élève qui va recevoir une notification sur son téléphone peut prendre jusqu'à 20 minutes pour se reconcentrer après l'avoir reçu. Ce qui fait sur 1 heure de cours, ce qui fait beaucoup. Et ce type de comportement que l'on doit surveiller et que l'on doit encadrer pour faire en sorte que la technologie soit utilisée de manière informée et appropriée pour l'éducation et intégrée dans les processus pédagogiques.
Alors, le rapport invite à s'interroger, donc à réfléchir sur quatre questions lorsque la technologie est déployée dans l'éducation pour s'assurer qu'on tire profit de ses avantages et sans nuire à l'expérience éducative. Alors, la première question est, est-ce approprié? De quoi s'agit-il exactement?
Donc, en gros, la question de savoir si la technologie est appropriée est très importante parce que on n'utilise pas toutes les technologies dans toutes les situations ou une technologie dans toutes les situations. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est le contexte, quels sont les besoins d'apprentissage et quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir ensuite décider de quelle technologie utiliser ou pas. Il peut y avoir des situations où utiliser ce qu'on appelle les low-tech ou les basses technologies est plus efficace pour améliorer les apprentissages. En Chine, par exemple, l'incorporation de la télévision dans les leçons guidées par l'enseignant a eu un effet assez large et positif sur les niveaux d'apprentissage. La radio est toujours essentielle et est utilisée par 40 pays pour dispenser l'éducation aujourd'hui.
Deuxième point de réflexion, c'est est-ce équitable? On l'a déjà évoqué, on l'a vu avec la pandémie de la COVID, la question de l'accès aux technologies qui est devenue un point central pour prévenir l'exclusion. Et donc, le rapport invite aussi à se demander est-ce équitable?
Alors oui, le point important, c'est de s'assurer que notre utilisation de la technologie prend en compte les populations exclues et marginalisées. La technologie a la capacité d'améliorer l'efficacité de tout processus, mais si elle améliore l'efficacité d'un processus qui est déjà exclusionnaire au départ, alors l'utilisation de la technologie ne sera pas équitable. De plus, il va y avoir des situations où certaines populations n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la technologie. On estime dans le rapport que ça coûterait à peu près 1 milliard par jour pour s'assurer que l'ensemble des enfants des pays les plus pauvres soient connectés.
Justement, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les différences d'accès? Donc, il y en a au sein d'un même pays, mais aussi entre les différents pays. Il y a des pays pour lesquels il est important d'avoir accès à une éducation de base, sans parler déjà d'un accès à la technologie.
Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment le cœur du rapport. On n'est pas dans une nécessité d'un investissement à l'aveugle dans la technologie. Il faut vraiment s'assurer que l'on comprenne quelle technologie est utile et est efficace et a un coût raisonnable et peut être mise à l'échelle sur l'ensemble du système éducatif avant de la mettre en œuvre pour s'assurer que justement on adresse les besoins du pays, sachant que les besoins vont varier en fonction du niveau éducatif, que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur, on n'aura pas la même discussion sur quelle technologie utiliser pour quelles compétences, par exemple, mais aussi sur le niveau d'avancement du pays, le niveau de connectivité qu'on observe dans le pays et tout un nombre de facteurs qui vont faire en sorte que le déploiement de la technologie sera efficace ou pas.
Il y a une troisième question qui est, peut-on passer à la vitesse supérieure et qui évoque des preuves fiables de la valeur ajoutée des technologies?
La question des preuves fiables de la valeur ajoutée, c'est une question qui est assez difficile et c'est ça que l'on veut vraiment démontrer. C'est qu'en fait, si on regarde bien, il y a peu de données solides sur la valeur ajoutée des technologies numériques dans le domaine de l'éducation, parce qu'il est difficile de les recueillir, parce qu'en fait, la technologie évolue plus vite que les moyens de l'évaluer. Et les solutions technologiques dans le domaine de l'éducation évoluent en moyenne tous les 36 mois. Donc, il est vraiment difficile d'avoir une approche qui se base sur les preuves si on ne développe pas nous-mêmes notre capacité de manière systématique à évaluer les technologies sur les différentes fonctions du système éducatif.
Il faut quand même aussi pouvoir les évaluer.
Oui, il faut pouvoir les évaluer dans le temps, mais ça veut dire avoir des méthodes d'évaluation qui prennent en compte cette évolution rapide et qui prennent en compte la diversité des types de technologies qui font partie du panorama éducatif.
Y a-t-il des outils qui sont déjà développés justement qui permettraient d'évaluer et comment est-ce qu'ils font en fait concrètement?
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des entreprises ou des gouvernements qui utilisent donc des évaluations randomisées pour produire une évaluation de l'efficacité des technologies. Et certains pays ont aussi mis en place des certifications par des organismes indépendants. Par contre, ça reste très minoritaire. Si on regarde l'exemple du Royaume-Uni, seulement 7% des entreprises qui produisent des technologies éducatives ont mené des évaluations randomisées. Et seulement 12% ont été certifiés par un organisme indépendant.
Alors, dernière question, est-ce durable? Ça veut dire quoi parler de durabilité par rapport à la technologie dans l'éducation?
Bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais une chose que l'on discute en détail, c'est aussi le problème de la durée de vie des appareils. Ce qu'on montre, par exemple, c'est que si on augmente d'un an la durée de vie des ordinateurs dans l'Union européenne, cela pourrait permettre une réduction des émissions en CO2 équivalente au retrait de près d'un million de voitures de la circulation. Donc il y a un impact indirect de l'introduction de la technologie dans les systèmes éducatifs qui va se manifester au niveau écologique, mais qui peut aussi se manifester sur d'autres questions du développement durable, comme la question du bien-être des enfants, avec, on le voit, une augmentation des diagnostics d'anxiété et de dépression qui peuvent arriver suite à l'utilisation exagérée des écrans, par exemple.
C'est aussi une question par rapport à l'adaptation des systèmes éducatifs et quant à l'évolution rapide des technologies.
Oui, alors il faut de manière générale que les systèmes éducatifs puissent s'adapter à l'évolution rapide des technologies, mais ce qu'il faut surtout, c'est que les systèmes éducatifs ne perdent pas de vue que la technologie reste un outil et que le cœur de l'éducation, à nouveau, n'a pas besoin de changer en soi. Ce qui est important, c'est pour un grand nombre de pays, c'est les bases de la lecture, des mathématiques, l'accès à l'école. Ce sont des domaines où la technologie va jouer un rôle bien moindre que ce qu'on peut penser de manière générale ou de prime abord.
On a évoqué ChatGPT tout à l'heure. C'est un outil qui peut être mal utilisé dans la mesure où les étudiants peuvent lui demander d'écrire leurs devoirs. Est-ce qu'il s'agit aussi d'avoir des outils et des façons de repérer ce genre de mauvaise utilisation?
Alors, d'un côté, oui, c'est-à-dire que les créateurs de ChatGPT eux-mêmes ont développé à côté un outil qui permet de détecter les textes qui peuvent être générés par de l'intelligence artificielle générative. Donc ça existe, ce sont des outils qui existent, qui vous disent, sur la base de la structure du texte, du vocabulaire utilisé, le pourcentage que vous avez que le texte soit généré par une intelligence artificielle. Donc ça existe. Mais l'autre côté, c'est aussi apprendre aux étudiants ou au système éducatif à intégrer ces outils et peut-être explorer d'autres domaines de l'éducation à l'aide de ces outils. Parce qu'il n'empêche que la ChatGPT en soi représente un accès à la connaissance qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Et donc c'est une richesse en soi qui peut être utilisé par le système éducatif, mais ça demande de réfléchir à de nouveaux procédés pédagogiques peut-être.
C'est plus son aspect en tant qu'outil de recherche.
En tant qu'outil de recherche et surtout d'intégrer le fait que le côté créatif reste à l'heure d'aujourd'hui l'apanage de l'humain. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va nous différencier de l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit dans les recherches récentes sur ChatGPT et les intelligences artificielles, c'est que les logiciels vont réussir à passer ou à obtenir les scores moyens pour passer différents diplômes ou différents examens, mais ils vont jamais réussir à aller dans l'excellence. Et l'excellence, en général, elle est à la frontière de ce qu'on connaît par cœur et de ce qu'on peut créer, de comment on utilise notre information pour résoudre des problèmes plus complexes.
Vous avez évoqué en début d'interview l'importance de former de façon adéquate et appropriée les enseignants. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils peuvent finalement, ils peuvent perdre beaucoup de crédibilité face aux étudiants qui ont accès justement à ces outils d'accès d'informations rapides et de réponses comme ChatGPT, etc. S'ils sont mal adaptés aux technologies et s'ils ne les utilisent pas de façon constructive dans la salle de classe, ça peut justement aller dans le sens contraire et nuire à leur légitimité.
Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où vous intégrez une technologie qui fait partie du processus pédagogique dans une salle de classe, vous introduisez une seconde autorité dans la salle de classe. Et si l'enseignant n'est pas en mesure de faire valoir d'être à l'aise avec l'utilisation de cette technologie, alors ça peut engendrer des problèmes par rapport à sa légitimité, par rapport à son autorité vis-à-vis des élèves. Et c'est pour ça qu'on souligne l'importance de former les enseignants à l'utilisation des technologies. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple dans l'Union européenne, moins de la moitié des enseignants déclarent que les technologies de l'information et de la communication faisaient partie de leur formation ou de leur éducation formelle. Et seulement un quart des systèmes éducatifs ont des lois sur la formation des enseignants en technologie.
Est-ce que ça ne risque pas de créer un manque d'adhésion, une rupture d'adhésion dans le système d'éducation vis-à-vis des jeunes générations, dans le sens où s'ils sont habitués à naviguer, à exister dans ces mondes de réseaux sociaux avec l'accès aux technologies, l'accès à une information rapide et sans forcément avoir un jugement très critique. S'ils sont dans une salle de classe où l'enseignant n'est pas du tout lettré, on va dire, dans tout ce qui est technologie, ça peut créer l'impression qu'en fait, l'éducation en tant que telle n'est pas aussi utile que la technologie dont ils disposent.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans votre question. L'un des éléments que je retiens surtout, c'est l'utilisation des téléphones portables à l'école. Parce que si les élèves sont en train d'utiliser leur téléphone portable dans la salle de classe ou leur smartphone dans la salle de classe, alors ça va de manière certaine nuire au processus pédagogique. On voit qu'aujourd'hui, un pays sur quatre a interdit l'utilisation des téléphones portables à l'école, et ça inclut des pays de la Côte d'Ivoire, la Colombie, la France ou les Pays-Bas, par exemple. Donc là, il y a un encadrement très important à faire de l'utilisation de la technologie dans les écoles. Alors après, est-ce que les jeunes sont beaucoup plus lettrés technologiquement que les enseignants? Aujourd'hui, ce que la recherche nous dit, c'est que ce n'est pas forcément vrai. Ils sont peut-être lettrés sur leurs outils, sur leurs applications, sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une valeur pédagogique à ces applications qu'ils utilisent.
Est-ce que vous avez un autre message que vous voulez souligner?
Nous, de manière générale, ce qu'on veut vraiment souligner, c'est que la technologie en éducation n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'utilisation qu'on en fait qui va être bonne ou mauvaise, et c'est pour ça que le rapport met en avant l'importance d'une utilisation encadrée des technologies en éducation, en plaçant les besoins des apprenants et des systèmes éducatifs au premier plan.